200 ans de dévouement, de charité en faveur des plus pauvres, des exclus, des oubliés. Ce qui a commencé par une petite communauté à Gand, en Belgique, partie d'un désir d'un père, le père Pierre-Joseph Trieste, de s'occuper de vieillards à une époque où la situation au niveau des soins aux pauvres, aux malades et aux personnes âgées était catastrophique, est devenue aujourd'hui une congrégation avec des multiples branches internationales. Présents aujourd'hui dans plus de 25 pays, les Frères de la Charité sont devenus de véritables pionniers sur le plan de soins aux patients psychiatriques. Cette musique que vous entendez en toile de fond est un extrait de leur hymne pour ce bicentenaire. Ce sont donc environ 600 frères et novices, 70 membres associés et plus de 15 000 collaborateurs dans le monde. Ces 200 ans sont l'occasion de porter notre attention aujourd'hui sur l'histoire de leur congrégation et leur signification dans un monde comme celui d'aujourd'hui. Frère Aimé Piersman est le secrétaire général de la congrégation. Il commence par nous raconter comment la congrégation est arrivée à cette dimension internationale.
Au début, nous avons commencé avec les personnes âgées et de là, en 1811-12, à Gand, avec les malades psychiatriques qui étaient enchaînés dans les caves d'un château et on les a libérés ainsi pour les traiter en tant que malades et pas des gens dangereux qui devraient être enchaînés. Alors, dans chaque province, on a installé donc un grand institut. Et puis, on a transmis aussi les instituts psychiatriques dans les autres pays, comme au Canada et surtout en Afrique centrale, au Rwanda, Burundi, au Congo, parce que cela semble être un des plus grands problèmes dans plusieurs pays, surtout dans les pays au tiers-monde.
Donc, votre désir est d'installer dans les différents pays des instituts psychiatriques, mais je crois que votre attention se dirige aujourd'hui vers les personnes handicapées en général. Alors, parlez-nous de vos priorités actuelles.
Notre attention se dirige surtout pour les personnes handicapées physiques ou mentales ou bien sociales, les aveugles, les sourds, les enfants délaissés, les enfants de caractère difficile, etc. Et nous continuons aussi avec l'enseignement de la jeunesse dans tous les pays où nous sommes installés, surtout en Belgique et dans la République démocratique du Congo, dans l'Afrique du Sud, en Tanzanie, en Indonésie, où on a des problèmes à cause de la discrimination entre les écoles privées, des congrégations, et les écoles officielles qui reçoivent des subsides de l'État, tandis que les écoles privées ne les reçoivent pas. Alors, ça demande beaucoup d'argent qui doit venir des pays européens.
Vous vous occupez donc de beaucoup d'œuvres apostoliques, mais on ne peut parler de tout cela sans évoquer bien sûr toute l'inspiration qu'il y a derrière, donc de l'inspiration de votre fondateur.
Bien sûr, et j'ai étudié plusieurs années la vie et la spiritualité, le charisme de notre fondateur, et j'en ai trouvé 5 principes. En premier lieu, c'est l'amour, la charité. Et en deuxième lieu, c'est la foi dans l'amour de Dieu. Alors, la nécessité de prendre soin de notre foi et de la foi de tous ceux qui nous sont confiés. Et en troisième lieu, la foi dans la valeur et la vocation de chaque personne. Et en quatrième principe, c'est l'engagement inlassable pour tous les hommes et surtout pour ceux qui sont en besoin, n'importe quel besoin. Donc une vie de dévouement. Et cinquième lieu, c'est faire tout cela ensemble. Donc ce sont 5 principe que je trouve très important pour comprendre la spiritualité, le charisme de notre fondateur.
Et c'est ce qui caractérise toujours aujourd'hui l'identité des Frères de la Charité.
En ce qui concerne l'identité, la charité est au centre de la congrégation. Et cela nous a rendu beaucoup de joie en découvrant que le pape actuel, avec sa première exhortation, portait le nom de Deus Caritas Est. C'est aussi le mot qui est employé dans la congrégation, Deus Caritas Est. Donc, nous nous sentons vraiment au centre de l'Église actuelle.
Abordons maintenant, frère Aimé, si vous le voulez bien, les problèmes que vous êtes amené à affronter. Dans beaucoup de pays, en Afrique et en Asie surtout, je crois, le problème de la santé mentale ne reçoit pas toujours la reconnaissance et l'attention qu'elle mérite. Est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent sur ce plan-là?
Donc, dans beaucoup de pays, ce n'est pas si facile à trouver même les malades psychiatriques parce que, comme en Belgique, on cache les malades, on doit les trouver d'abord et puis insister chez la famille de ces malades pour les laisser soigner dans un institut. Et puis, une autre difficulté, c'est de trouver, bien sûr, des gens capables à soigner ces malades. Ça demande une préparation spécialisée. Et dans beaucoup de pays, ensemble avec le commencement d'un institut psychiatrique, on commence également avec une école pour enseigner comment soigner les malades psychiatriques. Et puis, bien sûr, mais c'est pour tous les œuvres dans le monde entier, c'est le manque d'argent pour construire, pour payer les gens qui travaillent dans ces instituts. Et on est en train de chercher partout des fonds pour continuer ce travail important pour les malades dans les pays de l'Afrique et de l'Asie.
À l'heure où l'on parle de plus en plus de crise de vocation, comment se porte aujourd'hui, frère Aimé, la congrégation des Frères de la Charité? En subit-elle les effets?
En tant que secrétaire général, pour le moment, depuis une année, j'ai déjà une vue générale sur la congrégation et ce n'est pas nouveau, mais j'ai constaté moi-même aussi qu'il y a une grande différence entre les pays de l'Ouest et les pays du Sud et de l'Est. Nous avons un accroissement de frères en Afrique et dans quelques pays de l'Asie, par exemple aux Indes, maintenant au Vietnam où nous avons commencé aussi. Mais nous constatons aussi que c'est difficile pour le moment aux Philippines pour les jeunes frères de continuer dans leur vocation. Donc ça c'est de nouveau un défi que nous devons envisager. La même chose est constatée en Indonésie. C'était dans le temps, il y a des années aussi, en Afrique centrale, mais pour le moment, j'ai l'impression qu'on tient mieux en Afrique centrale que dans le passé. Et ainsi, l'histoire des vocations change chaque 10 ans, chaque 20 ans, en rapport avec la situation du pays. La vocation religieuse est intégrée dans la société.